Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. Et ce matin, je veux prêcher le premier message d'une série au sujet de l'Église. Mais pourquoi une série de messages sur l'Église? Beaucoup de raisons, mais juste je veux évoquer deux raisons. Parce que l'Église est importante aux yeux de Dieu. Et vous savez que dans le Nouveau Testament, donc en grec à l'original, le mot église est mentionné 115 fois. Une deuxième raison, c'est pour comprendre, selon la parole de Dieu, la raison d'être de l'église et pourquoi nous y sommes. Ceci dit, j'ai une question à vous poser. Dans quelle partie de la Bible est-il mentionné pour la première fois le mot église? Dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament. Et une deuxième question, est-ce que vous pouvez me dire, dans le Nouveau Testament, dans quel livre du Nouveau Testament est mentionné pour la première fois le mot Église? En Matthieu. Et Matthieu, chapitre 16. Donc, Matthieu chapitre 16, c'est la première fois où le mot « église » est mentionné. J'aimerais que vous tourniez votre Bible alors dans Matthieu chapitre 16. Hein, et nous allons lire le verset 13 à 20. Donc, je vous invite donc à chercher dans votre Bible Matthieu chapitre 16, hein, verset 13 à 20. J'aimerais juste vous le dire de suite, hein, que dans les évangiles, il n'y a que deux fois où le mot « église » est utilisé dans l'évangile de Matthieu. Donc, au chapitre 16, que nous allons lire 13 à 20, et au chapitre 18. Et après, le reste, c'est dans les épîtres. Donc, Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Gardez votre Bible ouverte. La première chose qui attire l'attention quand on lit ce passage, au sujet de l'identité de Jésus, il y avait une confusion à cette époque. Oui, les autres disent, pourquoi pas Jean-Baptiste? Pourquoi pas Élie? Pourquoi pas Jérémie et d'autres prophètes? Et vous savez, hier comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées différentes sur Jésus. Certains disaient c'est un prophète, d'autres c'est un sage. Oh, il est le fondateur d'une religion, le christianisme. Un mirage. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'est important de revenir sur l'identité de Jésus-Christ. C'est important de cerner le passage dans son contexte. Matthieu commence, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Ce matin, je vous invite à ce que nous cheminons ensemble avec Jésus et les apôtres. Donc, nous y sommes dans un territoire non-juif. Non-juif, hein, la région de Césarée de Philippe. Ce n'est pas un hasard que c'est marqué Césarée de Philippe. D'abord, il faut noter que cette ville est éloignée à peu près de 200 km au nord de Jérusalem, au pied du mont Hermon. Donc c'est proche du source du Jourdain. Et vous savez que le mont Hermon, donc, est une longue chaîne de montagnes qui forme une frontière naturelle. Je vous ai dit, ce n'est pas le hasard qu'il ait mentionné Césarée de Philippe, parce qu'Hérode, Philippe, qui gouvernait cette région, avait construit une ville en l'honneur de César, d'où le nom Césarée, son empereur, et aux siens, d'où le nom Philippe, Césarée de Philippe. Ça, c'est une chose, mais ce qu'il faut retenir dans ce que nous allons développer maintenant, c'est que dans cette région, il y avait plusieurs religions. Autrefois, c'était le centre pour l'adoration du dieu de la divinité Baal. Le dieu grec Pan, il y avait aussi des temples. Hérode le Grand avait construit un temple en l'honneur de César Auguste. Et vous savez, c'est au milieu de ce lieu plein d'idolâtrie que Jésus va interroger, comme nous venons de lire tout à l'heure, ses disciples sur son identité. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Et je dirais, on chemine avec lui dans le territoire de Césarée de Philippe. Imaginons que nous sommes pas loin du temple de César et il me semble probablement que c'est à l'ombre de ce temple que Jésus a annoncé une grande surprise. Les Juifs, à cette époque, attendaient le Messie conquérant qui va détruire le pouvoir romain. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il parle pour la première fois qu'il construirait son église et non pas établir son royaume. Quel déception pour les disciples. Et Pierre vient de confesser que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur lui répond, « Tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Pour les propos qui suivent, je voudrais juste vous donner trois point que nous allons développer ce matin. D'abord, la définition du biblique du mot « église ». Après, vous avez remarqué vers la fin que Jésus utilise des métaphores qui est lié avec un certain aspect de l'église. Et nous allons terminer par le lien entre l'église et les royaumes des cieux. Sans tarder, regardons le sens biblique du mot « église ». Ce mot est la traduction du grec « ecclésia ». « Ecclésia » est formé de « ek », qui est une proposition, veut dire « hors de », et « kaleo », c'est le verbe « appeler ». Donc « ecclésia », c'est « appeler hors de ». Retenez cette définition. Mais vous savez, dans le langage courant de l'époque, ce mot désignait une assemblée. Dans le langage courant de l'époque, il désignait une assemblée. Et je dirais, il avait même une connotation beaucoup plus politique que religieuse. À titre d'exemple juste, vous pouvez lire dans Acte 19, ou le noter, chapitre 32, Acte 19, verset 32 et verset 39 à 40. Le mot « ecclésia » ici est utilisé pour désigner tous ces gens qui sortent de leur maison ou qui sortent de leur travail et pour se diriger tous au théâtre pour faire valoir un privilège économique suite au soulèvement d'un nommé Démétrius qui est un orfèvre parce que son business a été touché suite à la prédication de l'apôtre Paul. Donc vous voyez, c'est un mot pour désigner ici, dans Actes 19, 32, 39 à 40, ceux qui quittent leur maison, appelés hors d'eux, quitter leur maison et aller dans un lieu, c'est le théâtre. Et ce qui est formidable, c'est que le Seigneur utilise parfois des mots très ordinaires, comme je viens de vous le dire, mais il va lui donner une signification spirituelle. C'est ce que nous avons dans Matthieu 16, 18. Pour la première fois, donc, il dit, « Je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. » Donc au moment où Jésus parle, l'église, l'ecclésia n'existait pas encore, parce qu'il ne dit pas je bâtis. Il dit je bâtirai. Donc, l'existence de l'église avait commencé au jour de la Pentecôte, lors de la descente du Saint-Esprit qui est venu demeurer dans les croyants. Et ça, nous le savons dans Actes chapitre 2. Ici, j'aimerais aujourd'hui que vous reteniez deux aspects de l'Église, hein, selon la parole de Dieu. Donc ici, dans Matthieu 16, 18, hein, nous avons un aspect de l'Église, je dirais l'Église dans son aspect universel. Ça veut dire quoi? Donc, l'Église dans son aspect universel est constituée en grande partie des païens, à cette époque-là, non-juifs, et que Dieu a appelé par son salut hors du monde pour faire un peuple qui lui appartienne. Vous voyez, appelé hors d'eux. Donc, dans son aspect universel, l'Église est composée des païens en grande partie, et ils sont appelés par Dieu, par son salut hors du monde, pour faire un peuple qui porte son nom. Acte 15, verset 14. Je lis, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations, les non-juifs, pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Une chose très importante à retenir, l'Église dans son aspect universel, donc aussi en d'autres termes, désigne ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 12-13. Donc, Dieu a choisi des personnes qui croient en le Seigneur et il le baptise dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, l'Église, dans son aspect universel, constitue l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire reçus la vie par la foi. Ce sont les croyants de l'ère de l'Église. Ça commence depuis Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Ils sont composés de qui? Ils sont composés de ceux qui sont encore vivants. Vous et moi, dans la salle, il y en a beaucoup de croyants qui forment l'Église, sont vivants. Mais n'oublions pas qu'il y a ceux déjà qui sont décédés auprès du Seigneur. Oui. L'Église universelle, donc, constituée de tous les croyants pendant l'ère de l'Église, depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église quand Jésus-Christ va descendre sur les airs pour prendre son Église avec lui. Son épouse. Donc, l'Église universelle est aussi dans la Bible appelée le corps de Christ. Pourquoi? Parce que l'illustration du corps souligne l'unité de tous les croyants durant l'ère de l'Église. C'est pour cela qu'il est appelé le corps de Christ, Éphésiens 5, 23. L'Église, dans son aspect universel, est appelée aussi l'épouse de Christ, Éphésiens 5, 25 à 27. On lit dans ce passage que Christ aime son Église, elle la nourrit et il en prend soin. 5, 29. Et un jour, il va faire paraître cette Église irréprochable devant lui dans toute sa gloire. Vous savez, ça c'est quelque chose de formidable, ce que Jésus est en train d'enseigner pour la première fois à ses disciples ici, que l'Église, dans son aspect universel, est unique. Nous lisons dans les Épîtres que Christ est le chef, ou la tête de l'Église qui est son corps. Ça, c'est le premier usage dans les évangiles du mot « Église ». Donc, retenez Matthieu 16, 18, souligne l'Église dans son aspect universel. Maintenant, la deuxième fois que nous lisons, ou on voit l'utilisation du mot « Église », c'est dans Matthieu 18, verset 17. « S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. » Donc déjà, une petite parenthèse. Je le croyais quand j'étais jeune chrétien, que l'Église c'est le bâtiment. Mais ici, on dit, écoute l'Église. Et dis à l'Église. Écoutez l'Église. Donc l'Église n'est pas un bâtiment. Okay. Mais ce que nous voulons souligner surtout ici, que le sens du mot Église ici, ce n'est plus la même que celui que nous venons d'énoncer dans Matthieu 16, 18. Pourquoi? Parce qu'on te dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et publicain. n'est pas le même sens que l'aspect universel, parce que il est évident qu'on ne peut pas s'adresser à toute l'Église physiquement, n'est-ce pas? L'ensemble de tous ceux qui sont sauvés, comme je vous ai dit, ça constitue ceux qui sont vivants, ceux qui sont morts. On ne peut pas les appeler et lui dire. Donc ce n'est pas possible que le sens, c'est le sens de l'Église dans son aspect universel. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Ici, ce deuxième utilisation souligne l'aspect de l'Église, l'aspect local. Ça veut dire quoi? L'Église, dans son aspect local, désigne un rassemblement des croyants. Rappelez-vous, dans l'utilisation courante, c'est une assemblée, un rassemblement de personnes qui sortent d'un lieu et vont aller dans un lieu pour constituer un corps. Donc c'est un rassemblement de croyants dans une localité. Ça, c'est l'Église dans son aspect local. Ça veut dire quoi? Comme nous, ici, ce matin, les enfants de Dieu se réunissent dans une localité, ici, à un rue Adrien, du coup, Pessac, afin de pratiquer les enseignements des Écritures. Et ce qui est formidable, dans les Épîtres, les deux aspects de l'Église sont mentionnés et sont enseignés clairement. Et je vous donne juste quelques passages, vous les notez chez vous. Hein, l'Église dans son aspect local, par exemple, en Actes 8, verset 1, on parle de l'Église de Jérusalem, dans une localité de Jérusalem. L'Église en Asie mineure, Actes 16, 5. L'Église à Rome, Romains 16, 5. L'Église à Corinthe, 1 Corinthiens 1, 2. 2 Corinthiens 1, 1. L'Église en Galatie, Galates 1, 2. À Thessalonique, 1 Thessaloniciens 1, 1. Et à l'époque, ils se réunissaient, l'Église, dans les maisons, Romains 16, 5 et Philémon 2. Donc, c'est enseigné dans la parole de Dieu. Mais revenons maintenant dans notre texte, Matthieu 16, verset 13 à 20. Qu'est-ce qui s'était passé? Jésus, donc, dans la foule ou l'endroit plein d'idolâtrie, va pour la première fois clarifier son identité. Et ce qui se passait, c'est que Jésus ne s'intéresse pas à ce que la foule dit de lui. Il va maintenant se tourner vers les disciples et demande précisément ce qu'ils pensent et d'après vous, qui suis-je? Et comme d'habitude, Pierre, il va aller vers le devant et dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant !» Verset 16. Et cette déclaration de Pierre était sa réponse à la révélation que Dieu, le Père, lui avait faite. Parce que Jésus disait que ce n'était pas par le sang et la chair qu'il a pu dire cela, ou par ses propres investigations personnelles. Non, c'est un acte de pure grâce de la part de Dieu. J'aimerais, ça c'était curieux, quand j'étudie ce texte, il y a cette première confession ici, mais ce n'était pas la première fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qu'il y avait des confessions de foi. Je cite juste, à titre d'information, Nathanaël, quand il avait reconnu en Christ le Fils de Dieu, en Jean 1, 49. Les disciples aussi l'avaient déclaré Fils de Dieu quand il eut calmé la tempête. Matthieu 14, 33. Pierre avait fait une confession de foi après que la foule eut quitté Jésus, après son serment au sujet du pain de vie. Regardez Jean, chapitre 6, versets 68 et 69. Quand André conduit son frère Simon à Jésus, André lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Jean 1, 41. Donc la confession de foi, il y en avait beaucoup et plusieurs fois avant déjà. Et alors, pourquoi alors cette confession de foi de Pierre, ici en Matthieu 16, 18, est-elle différente des autres que je viens de vous mentionner? Trois points que je vois dans le texte. D'abord, c'est très important parce que Jésus qui a clairement demandé cette confession. Ça, c'est la chose à souligner. Donc, ce n'est pas une réponse émotionnelle de ceux qui ont vu un miracle, mais l'affirmation sincère et réfléchie d'un homme qui a reçu l'enseignement de Dieu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Jésus-Christ valide cette confession de foi. Et il va l'utiliser pour enseigner de nouvelles vérités. Mais quelles nouvelles vérités? Il ne faut pas oublier que le pays est sous l'occupation romaine, le peuple juif. Et ils attendent un Messie conquérant qui va détruire le pouvoir romain. Et Jésus maintenant va pour la première fois incruster dans la tête de ses disciples pour qu'ils se débarrassent de ce faux raisonnement de dire que le Messie, on va le voir quand il va prendre le pouvoir et détruire le pouvoir de Rome. Et c'est là qu'il va pour la première fois s'identifier comme le Messie, le Fils du Dieu vivant, qui est dévoilé par un disciple, Pierre. Et c'est après cette révélation qu'il va annoncer pour la première fois sa mort et sa résurrection. Donc il n'est pas le Messie conquérant, comme pensaient beaucoup de Juifs, pour détruire le pouvoir romain, mais il est venu en tant que le Messie souffrant d'abord, et plus tard, le Messie conquérant, comme les Juifs attendaient. Et c'est pour ça que ce n'est pas anodin quand Jésus se présente dans le titre « Fils de l'homme ». « Fils de l'homme » au verset 13. Pourquoi ? Parce que, vous savez, cette expression « Fils de l'homme » permet de cacher, comme elle permet de dissimuler, les deux aspects de la personnalité de Jésus, à savoir qu'il est le Messie de la lignée de David, mais en même temps qu'il est le Messie, le serviteur souffrant. J'aimerais que vous regardiez dans Matthieu 11, versets 25 à 27, ouvrez votre Bible. Pourquoi je dis, il utilise l'expression pour cacher ou dissimuler ces deux aspects de sa personne. Et oui, Matthieu nous dit clairement en cela que Dieu avait caché ces choses aux pharisiens et sadducéens orgueilleux et les avait révélées aux enfants, les humbles disciples. Matthieu 11, versets 25 et 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne me connaît ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » C'est ce que confesse Pierre, n'est-ce pas? « Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui qui a le Fils veut le révéler. » Vous voyez, le titre « Fils de l'homme », c'était pour que on se détourne de cette mauvaise interprétation du Messie, et il se dit « Fils de l'homme » pour que Dieu puisse le cacher à ses dirigeants religieux, le Messie en la personne d'un serviteur qui va souffrir. Et vous savez, si vous lisez l'évangile selon Matthieu, à partir du Matthieu chapitre 16, il va annoncer pour la première fois, vous regardez juste en Matthieu 16 à partir du verset 21, il va annoncer sa mort et sa résurrection. Et je dirais c'est le tournant dans l'évangile selon Matthieu de son argument. Maintenant, il va se tourner vers le Messie souffrant. Et Jésus va répéter plusieurs fois à ses disciples pour qu'ils puissent le croire et l'intégrer et le digérer. Et je ne voudrais pas oublier aussi de signaler que le Fils de l'homme, cette expression, on le trouve dans l'Ancien Testament, en Daniel 7, 13 et Daniel 8, 17. Je vous laisse le temps de lire chez vous. Mais selon donc la tradition juive, le Fils de l'homme dont il est question ici est établi comme le Messie davidique. Donc, Christ utilise le titre, non seulement pour que les disciples comprennent, mais les dirigeants religieux ne comprennent pas, mais aussi comme accomplissement de ce qui est dit dans Daniel que je viens d'évoquer. Deuxième chose, Pierre confesse que Jésus est le Christ. Christ, c'est la traduction grecque du mot Messie. Messie, c'est celui qui est oint. Messie, c'est celui en qui, quand il va venir, il va accomplir plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament. Et ça, c'est l'attente messianique pour les Juifs. En conséquence, donc, la connaissance que Pierre a eue du Fils vient du Père. Et ce n'est pas la chair et le sang, une expression juive, se référant à l'homme mortel qui lui ont révélé cela. Cependant, il faut quand même ne pas croire que les disciples n'avait aucune idée de ce qu'est Christ, qui est le Messie. Il le savait parce que depuis le début, ils ont tout quitté pour le suivre. Donc, il voit en lui déjà, mais peut-être pas encore de manière très claire, mais petit à petit, Jésus va le révéler. Et donc, il avait un espoir en ce Messie qu'il suivait. Et nous lisons ça dans Jean 1, verset 41, verset 45, verset 49. Après cette confession de Pierre, nous allons maintenant parler des métaphores utilisées par Matthieu pour décrire certains aspects de l'Église. Et je vois deux métaphores. D'abord, l'architecture. Il parle de fondement. Et moi, au verset 18, je dis que tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon Église. L'Église catholique romaine dit que le fondement de l'Église est Saint-Pierre. Mais ici, Jésus fait un jeu de mots, on le voit dans le grec ici, que surtout pas, le fondement n'est pas Saint-Pierre. Le fondement, c'est le roc. Parce que, quand il dit « tu es Pierre », Pierre, c'est le mot « pétros » en grec, et ça signifie le caillou. Une pierre. Vous ne construisez pas une fondation avec un fondement, avec un caillou et une pierre. Aucun sens. Et le mot sur ce roc, c'est le mot Petra. C'est un grand, grand bloc de rocher. Donc la question, qu'est-ce qui est le roc? Vous savez, ce n'est pas nouveau, parce que les Juifs de l'Ancien Testament savaient déjà qui est le rocher, n'est-ce pas? Regardez 1 Samuel chapitre 2, verset 2. L'Ancien Testament donc décrit Dieu comme le rocher en qui les croyants trouvent force et refuge. Donc, qui est le roc ou le rocher? 1 Samuel 2, 2, je vais vous le lire. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. C'est Dieu qui est le rocher. Psaume 18, verset 3, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Verset 32, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Écoutez bien, maintenant, l'apôtre Paul va clarifier cette idée déjà bien établie et crue par les Juifs. Il dit à 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, pour les chrétiens, en se référant à l'histoire d'Israël dans la traversée du désert, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Donc, le fondement, ce n'est pas Saint-Pierre comme l'Église catholique romaine croyait, mais le fondement de l'Église, c'est Christ lui-même, le rocher que Paul vient de dire. Donc, le seul rocher qui rend l'Église inébranlable face aux puissances infernales, c'est celui que Pierre a confessé comme étant le Christ, le Fils de Dieu vivant. Passons maintenant aux deuxièmes métaphores sur l'Église, les métaphores des clés. Verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Vous savez, la Bible utilise la métaphore des clés comme symbole d'autorité. Ça, c'est faut retenir, quand on dit métaphore des clés, les clés représentent l'autorité. Comment on peut dire ça? Regardez dans votre Bible. Regardez avec moi Ésaïe, chapitre 22, verset 15 et verset 20 à 22. Pour justifier un des passages, parmi tant d'autres, où les clés est un symbole de l'autorité. Ésaïe 22, verset 15, on saute verset 20 à 22. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées, va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur du palais. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le scindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Et il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera, et quand il fermera, nul n'ouvrira. Quel est le contexte? sous le règne d'Ézéchias, il y avait un gouverneur qui s'appelait Shebna. Donc il détenait l'autorité comme il était stipulé dans ce passage. Mais, victime de son arrogance, Ésaïe prophétise ce que nous venons de lire. Donc les clés et le signe d'autorité. Donc les clés du royaume des cieux représentent un pouvoir, une autorité. Et ce qui me frappe quand je lis à plusieurs reprises le texte, c'est que juste après avoir dit « je bâtirai mon église », Jésus parle de suite du royaume des cieux. Pour moi, ça veut dire qu'il y a un lien entre l'église et le royaume des cieux. Et c'est ce que nous allons voir maintenant au dernier point du message. Quel est le lien entre l'église et le royaume des cieux ? Regardez votre Bible au verset 16 et verset 17. Quand on regarde de près, nous voyons une connexion qui est étonnante, je dirais, entre le ciel et la terre. Pierre, sur terre, déclare au verset 16, « Tu es le Christ, fils du Dieu vivant. » Et Jésus répond au verset 17, « C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. » Vous voyez la connexion entre le ciel et la terre. Donc pour moi, il y a bien une connexion. Mais comment le comprendre? Ça, c'est la difficulté. Comment le comprendre en restant dans le contexte? D'abord, il y a certaines plaisanteries et qui est crue jusqu'à maintenant dans le monde populaire. Parce qu'on confond le royaume des cieux avec le ciel. Est-ce que vous n'avez pas entendu, moi, depuis tout petit, il était dit que le royaume des cieux est le ciel et c'est Pierre qui a les clés du paradis. Et beaucoup le pensent encore aujourd'hui. Ça, c'est pas vrai parce que personne sur terre n'a les clés du ciel. Et donc, cette plaisanterie au sujet de Pierre qui possède la clé du paradis et le royaume des cieux, c'est un malentendu qui vient de ce passage que nous sommes en train d'en parler ce matin, qui est tordu en dehors de son sens. Mais alors, comment comprendre le lien entre l'Église et le royaume des cieux? Je vous donne une illustration. Vous considérez l'Église comme une sorte d'ambassade du royaume des cieux. Nous avons dit quel est le, et on voit le lien entre la terre et le ciel. Donc, considérez l'Église comme une sorte d'ambassade du royaume des cieux sur terre. Je dis à titre d'exemple que l'ambassade de France, je peux dire n'importe quel pays, je cite à Madagascar, l'ambassade de France à Madagascar représente et déclare les intérêts de la France à Madagascar. De la même manière, il existe aujourd'hui un lieu sur la terre où les citoyens du ciel sont représentés, sont rassemblés. Et ce lieu, c'est l'Église. Donc le royaume des cieux se manifeste à travers l'Église sur la terre. La question maintenant, mais qui détient les clés du royaume des cieux? Nous venons de voir, le passage s'adresse à Pierre, mais aussi, je dirais, les 12, les apôtres, parce que lorsque Jésus s'adresse à ses disciples, il leur pose cette question, qui dites-vous que je suis? Les 12 apôtres étaient présents. Mais c'est Pierre qui répond en tant que représentant des apôtres, et souvent, comme on dit, lui le porte-parole. J'ai un problème. Les apôtres ne sont plus là aujourd'hui. Or, le pouvoir des clés continue. Comment comprendre cela? L'autorité des apôtres continue chaque fois que chaque église, chaque chrétien persévère dans l'enseignement des apôtres, acte de 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Donc, l'autorité des apôtres continue chaque fois que vous ouvrez la Bible, vous croyez et prendre Dieu au mot de ce qu'il dit, et vous le mettez en pratique. Vous persévérez dans l'enseignement des apôtres, et en ce sens, le pouvoir des clés continue. Qui détient les clés du royaume des cieux? Nous avons dit Pierre, les apôtres, et je dirais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, parce que à Pierre, il est dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Regardez encore Matthieu 18, que nous avons cité auparavant, versets 17 à 18, qui parle de l'Église dans son aspect local. Regardez Matthieu 18, versets 17 et 18. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ici, le contexte, c'est le contexte de l'Église locale. Et ici, nous voyons bien, comme dans le Matthieu 16, l'expression délier, lier et répéter, qui exprime une autorité. Donc l'Église aussi reçoit les clés du royaume des cieux. Juste un instant pour préciser le propos de Jésus ici. Qu'est-ce qu'on entend par lier et délier? C'est une phrase très courante chez les Juifs, hein, parce que leur rabbin parlait toujours de ces choses couramment dans la vie quotidienne. Lier, c'est-à-dire interdire, et délier, c'est-à-dire permettre. Donc retenez bien ça. Lier, veut dire interdire, et délier veut dire permettre. Et deuxième chose qui est importante ici, à souligner le temps du verbe. Je vous ai dit que Dieu s'exprime aussi à travers les syntaxes, la grammaire, le temps des verbes. Et le temps des verbes ici, quand il est écrit sera lié, c'est le futur antérieur passif. Qu'est-ce que cela veut dire ? Pour vous donner l'exemple tout simplement, littéralement, on peut traduire ce qui est dû dans ces versets. Quand il parle de « sera lié », il faut comprendre « sera ayant été lié ». Quand il parle « sera délié », il faut comprendre « sera ayant été délié ». Oh, c'est des temps du verbe, hein. Les élèves maintenant à l'école, c'est dur, hein. Même nous les parents, c'est dur maintenant. Mais dans le grec, c'est ça le sens ici. C'est très important de comprendre ce sens, hein, parce que Dieu s'exprime dans les temps des verbes en grec. Hein. Nous croyons à l'inspiration verbale de la Bible. Chaque mot est inspiré de Dieu, même les virgules, les iota. Donc, écoutez-moi bien. Ce que Jésus, ici, par conséquent, il n'est pas en train de dire que Dieu obéira à tout ce que l'Église aura fait sur la terre. Je répète. Il ne faut pas comprendre ce passage comme si Dieu obéira à tout ce que l'Église aura fait sur la terre. Mais il faut comprendre que l'Église fera sur la terre tout ce que Dieu aurait déjà voulu, ayant déjà déterminé dans le ciel. Je répète, cela veut dire que Dieu ne se conforme pas aux décisions de l'Église. Dieu n'attend pas passivement que les hommes décident. Et c'est la faillite de la doctrine de la théologie catholique romaine. Parce qu'ils ont vu dans le lier et délier le pouvoir de dire c'est l'Église qui détermine qui sera dans le royaume de Dieu, qui ne le sera pas. L'Église catholique croit que l'Église a l'autorité de décider par le sacrement du baptême qui constitue le royaume des cieux. Je lis dans les doctrines hein, catholiques. Je lis aussi que le pape a l'autorité de constituer la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole du pape, c'est la continuité de la parole de Dieu. Il comprend comme cela ce qui est lié, ce qui est délié. Et même dans la doctrine catholique, les évêques ont le pouvoir de pardonner les péchés. Si vous avez entendu les infos cette semaine, la semaine dernière, le débat entre l'autorité de l'Église catholique et le pouvoir en place. Bon, c'est une parenthèse. Mais donc ici, il ne faut pas comprendre que Dieu dit amen à ce que l'Église dit. Non, il ne faut pas le comprendre comme cela. Il faut le comprendre du temps du verbe, que l'Église fera ce que Dieu a déjà décidé. En d'autres termes, l'Église, ce n'est pas celui qui décide qui sera sauvé, mais l'Église est la mégaphone de Dieu qui dit déjà ce que Dieu a déjà déterminé par avance. Donc c'est très important hein, de comprendre cela. Donc l'Église déclare ce que Dieu a déclaré au préalable dans la parole de Dieu. Donc je dirais, il ne s'agit pas de la ratification par le ciel des décisions prises par Pierre, les apôtres et l'Église, mais de la transmission par Pierre, les apôtres et l'Église, des décisions déjà prises dans le ciel. Et là, c'est ce que le texte dit. C'est important de comprendre ça. Je reviens toujours à ma petite illustration de l'ambassade de France à Madagascar. Vous savez, rappelez-vous que l'ambassade de France à Madagascar déclare les intérêts de la France à Madagascar et ne prend aucune décision qui soit en dehors du cadre défini par la France. Il en est de même pour toutes les ambassades dans divers pays. De même, l'Église est une ambassade du royaume des cieux. Elle a l'autorité de déclarer ce que Jésus-Christ a déjà déterminé. Ça, c'est le pouvoir que l'Église a d'être comme le mégaphone et de dire ce que Dieu a déjà déterminé. Nous l'avons eu, ce que Dieu a déterminé, nous l'avons dans la parole de Dieu. C'est un peu ardu le texte, mais c'est riche d'enseignements. Quelle est l'application pratique pour nous aujourd'hui? Honorer Christ, c'est honorer son Église et aussi honorer la parole de Dieu. Ça, c'est le premier point important. Je dirais, pour vous qui m'écoutez, si Jésus est votre roi et que le roi a donné l'autorité à l'Église, si l'Église s'attache uniquement à la Bible, il y a un encouragement pour nous qui est le suivant. Soyez attachés à l'Église. Soyez attachés à l'enseignement qui est dispensé dans l'Église. Soyez attachés aux personnes qui y sont rassemblées dans l'Église. Soyez attachés aux personnes qui y sont rassemblées. Prenez soin de vos frères et sœurs. Supportez-les. Pardonne-leur. Partagez tes fardeaux et porte-les leurs. Servez tes frères et sœurs et priez pour eux. Je voudrais vous dire que votre attachement à Christ se mesure à votre attachement que vous portez à votre Église. Donc, si vous le croyez aujourd'hui que je peux, j'aime Christ, mais je n'ai pas besoin de son Église, vous êtes dans l'erreur. Parce qu'il est impossible, selon la parole de Dieu, de se déclarer croyant un chrétien sans être attaché à l'Église. Pour comprendre et terminer, une dernière illustration. Je suis devant un couple chrétien que je connais et je dis à son mari, mon frère en Christ, oh je t'aime bien, formidable, mais par contre, ta femme, je ne peux même pas lui parler, je ne peux pas lui adresser la parole, ah non, ça passe pas. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il pense le frère à qui vous adressez ça? C'est une offense pour lui. Et si sa femme sait, c'est une offense pour sa femme. Chers frères et sœurs, il en est de même, vous ne pouvez pas dire, j'aime Jésus-Christ, mais je déteste son épouse, l'Église. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Oui, c'est une offense contre Dieu de dire que j'aime Jésus-Christ, mais je ne supporte pas son épouse, l'Église. Vous savez, l'Église, l'épouse de Christ, il a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Alors, je dirais ce matin un message pour chacun d'entre nous. Si vous honorez Christ, honorez son Église. Je termine avec ce que Jésus disait. Qui dites-vous que je suis? Il s'adresse à ses disciples. Vous savez, c'est une question importante que chacun doit aborder, ici dans la salle. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la vie éternelle, c'est connaître qui est Dieu. Qui est Christ? C'est donc vital d'avoir une réponse précise devant Dieu face à cette question. Qui dites-vous que je suis? Vous savez, ce matin, si vous ne faites pas partie encore de l'Église du Seigneur, vous savez, tout simplement, on y entre dans l'Église universelle par la foi et la repentance. Oui, vous pouvez, par la foi, placez votre confiance totale en Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous pouvez à cet instant même faire partie de son Église. Je dirais, ne tardez pas. Ne croyez pas que vous avez le temps. Voici maintenant le moment où tout à fait favorable, dit la parole de Dieu, voici maintenant le jour du salut.